Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a décidé de faire par rapport à ses actions dans son antenne?
Aujourd'hui, l'État a décidé de faire deux choses. La première, pour répondre à un certain nombre d'exigences liées au calendrier budgétaire, l'État a décidé de procéder à un nantissement d'une part de ses actions dans la Sonatel pour lever un certain nombre de fonds. Ensuite, dans un second temps, le président de la République souhaite que l'actionnariat local fasse partie de l'opération. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser cette opération pour que plus d'entrepreneurs privés, plus de Sénégalais aient plus d'actions dans Sonatel. Donc, dans un second temps, nous allons procéder à une offre publique de vente ouverte au public sénégalais en priorité, ainsi qu'aux institutionnels, donc personnes privées, personnes morales, en vue donc de solidifier la présence des Sénégalais dans Sonatel, dans un premier temps, et si cela est nécessaire, dans un second temps, de l'ouvrir à d'autres. Mais nous pensons que les Sénégalais sont suffisamment informés de la qualité de l'action de Sonatel pour que nous n'ayons pas à aller plus loin qu'un actionnaire sénégalais.
Avant l'ouverture de l'offre publique de vente, le choix s'était porté sur France Télécom. Pourquoi ce choix?
Alors, France Télécom, lorsqu'ils ont acheté les premiers 3% de la Sonatel, à l'époque de la première privatisation qui avait été menée par le gouvernement socialiste, France Télécom a signé un pacte d'actionnaires avec l'État sénégalais. Et dans ce pacte d'actionnaires, il bénéficiait d'un droit de préemption. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un droit de préemption, cela veut dire que si l'État décidait de vendre une de ses actions ou plus, l'État devait d'abord s'approcher de France Télécom, qui devait donc lui donner son premier refus. Si France Télécom décide donc de ne pas acheter, à ce moment-là, l'État peut donc contacter un tiers. Ce droit de préemption, certains ont dit... Pourquoi? Parce qu'après la privatisation, la Sonatel est rentrée en bourse, et donc il y a un droit boursier qui dit que le pacte d'actionnaires ne pourrait pas être, n'est pas en fait opposable au tiers, c'est-à-dire que si jamais il y a une transaction et qu'un tiers qui ne fait pas partie de cette transaction-là fait une réclamation, à ce moment-là, on ne peut pas faire prévaloir les termes qui sont dans le pacte d'actionnaires. Bon, ça c'est du juridisme, c'est de la technique, mais en réalité, quand vous faites de la technique, vous exposez toujours à des poursuites judiciaires dont l'issue peut ne pas être ce que vous pensez être. Donc, il y a certains juristes qui vous disent ceci, d'autres juristes qui vous disent cela. En tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pacte d'actionnaire en général est signé entre un État et une entreprise privée pour protéger un certain nombre de prérogatives régaliennes, donc de prérogatives de l'État, en vue que, en fait, le business ne soit pas, n'empiète pas sur certaines considérations sociales, certaines considérations politiques, etc., qui relèvent donc de l'État, qui relèvent de la responsabilité de l'État. Donc quand vous signez ce pacte d'actionnaire, ça protège un peu, donc c'est pour protéger l'État en tant qu'actionnaire, protéger la nation en fait en tant qu'actionnaire. Mais en contrepartie, cette entreprise-là dit d'accord, je suis prêt donc à faire que le business en fait ne s'exprime pas de manière totale, dans ce cas précis, mais qu'est-ce que vous me donnez en retour? Et c'est là où le droit de préemption arrive. Donc, quel que soit l'avis technique que vous aurez, il y a une considération plus ou moins morale, j'allais dire, qui fait que l'État est un actionnaire spécial. Et contre cela, France Télécom, le partenaire, donc, va faire prévaloir son droit de préemption. Donc, c'est pour cela que, naturellement, lorsque l'État donc a décidé de vendre ses 9,87% de Sonatel, naturellement, l'État devait s'adresser à France Télécom, mais aussi juridiquement.
Voilà. Et maintenant, si l'État ne reconnaît pas quand même, ou bien ne respecte pas ce droit que réclame France Télécom, quel risque encourait-il?
Oui, il y a lorsqu'une société a un droit de préemption et que vous ne lui donnez pas la possibilité de l'exercer, vous êtes en faute. faute grave d'ailleurs. Et cette entreprise est en droit de vous attaquer dans les tribunaux internationaux.
L'état du Sénégal.
Vous savez, l'état du Sénégal est un état qui a été plusieurs fois noté B+ par Standard & Poor's. C'est donc un état qui connaît la loi, les lois internationales. C'est un état qui respecte sa signature. Et c'est un État qui respecte aussi les règles du droit international. Donc, nous n'avons pas à nous poser ces questions-là. Que risque l'État, etc. Non, nous faisons ce que le droit nous permet de faire. Maintenant, si il y a des différences d'interprétation, à ce moment-là, le droit international s'exprimera. Mais en tout état de cause, l'État ne prendra jamais de décision qui l'exposerait de manière fatale.
Oui. Dans l'opinion publique, les travailleurs de la Sonatel eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi l'État veut vendre des actions au niveau de la Sonatel alors que c'est une poule aux œufs d'or, comme on dit.
Oui, vous savez, très peu d'États aujourd'hui gardent beaucoup d'actions hein, dans les sociétés privées. Ça, c'est le premier point. Même si on va m'opposer qu'en France, France Télécom garde... la France est très présente dans France Télécom, bon, malgré les directives européennes. Mais c'est un cas isolé, il faut le dire. La réalité, c'est que... c'est simple, hein, c'est une réalité de terrain. Vous avez d'un côté des participations dans des sociétés privées qui vous rapportent X chaque année. Et puis vous avez de l'autre côté des Sénégalais que vous devez éduquer. Vous devez faire des routes, vous devez faire des écoles, vous devez faire des hôpitaux. Vous devez aussi aider les Sénégalais à ne pas s'exposer aux fluctuations du prix de l'énergie. D'accord ? Quand le pétrole monte de manière très significative, vous devez vous assurer à la pompe que ce n'est pas payé par les Sénégalais. Donc tout cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État doit se mettre en position de tampon, trouver des sécurités financières qui permettent donc d'alléger en fait le fardeau que l'économie mondiale voudrait poser sur l'épaule des Sénégalais. Donc il faut à l'État trouver des manières, de manière très imaginative d'ailleurs, trouver des manières de trouver des fonds pour prendre en charge ce fardeau-là. C'est pour cela donc que vous faites le calcul, vous dites, bon, ben je gagne X chaque année, mais si j'avais tout d'un coup 50 fois X, je pourrais faire ceci, cela, et donc alléger le fardeau des Sénégalais. Et si je ne le fais pas, à ce moment-là, je serai obligé de déporter donc cette responsabilité sur la nation sénégalaise. Donc, c'est là où l'État donc prend ses responsabilités en tant que dépositaire de l'intérêt général. C'est là où il prend ses responsabilités, il fait ses calculs et il dit, bon ben voilà, pour alléger le fardeau des Sénégalais, voilà ce que je dois faire.
Oui, mais les travailleurs de la Sonatel disent que nous ne sommes pas responsables de l'endettement de l'État. Nous avons une société qui marche, l'État a des déficits budgétaires, c'est pas chez nous qu'ils vont prendre nos sociétés et nos actions pour les vendre, pour combler cela. Quelle est la responsabilité de l'État aujourd'hui sur ce déficit budgétaire?
Non, je n'ai pas entendu hein, les travailleurs parler de déficit budgétaire, etc. Ça,
dans l'opinion, c'est ce que les Sénégalais disent.
Oui, mais ça, ce n'est pas documenté. C'est pas la réalité. Hein. C'est pas du tout la réalité. Quand vous décidez de vendre, vous décidez de vendre. Maintenant, la raison.
Parce qu'il y a des difficultés de trésorerie.
Non. Je suis désolé. Vous avez une lettre de politique sectorielle du secteur des télécommunications qui a été publié il y a, je crois, 4 ans. Dans cette lettre de politique sectorielle, à l'époque où il n'y avait pas de problème de déficit budgétaire, etc., il était écrit noir sur blanc, et je vais de mémoire citer, « L'État étudiera la pertinence d'un retrait partiel ou total de l'actionnariat de la Sonatel. » Donc c'était il y a 4 ans. Ensuite, nous avons travaillé, et c'est simplement une coïncidence de calendrier. Parce que vous savez, ces opérations-là, quand vous les faites, entre le moment où vous les décidez et le moment où vous les faites, lorsque vous voulez les faire de manière professionnelle et transparente, il y a un temps. Donc il y a maintenant, il y a eu un chevauchement de calendrier et les gens veulent interpréter cela en disant, bon ben voilà, nous vendons parce que nous avons des difficultés. Non, pas du tout.
Ça, c'est le ministre des Finances qui a dit que l'État vend parce qu'il a besoin de 200 milliards. Mais pourtant, parallèlement, il y a des circuits financiers à partir desquels l'État peut trouver 200 millions de francs. Pourquoi le choix a, de 200 milliards de francs. Pourquoi le choix a été porté sur la vente des actions de la Sonatel?
Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit parmi les choix financiers, il y a d'autres choix financiers. Parmi ces choix-là, il y avait la vente de ces actions. Pourquoi privilégier une voie et pas l'autre? Non. Encore une fois, il y avait une lettre de politique sectorielle. Les gens ont travaillé depuis plusieurs années pour voir comment, dans quelles conditions nous voulions sortir de l'actionnariat de la Sonatel de manière totale ou partielle. Nous avons décidé de sortir de manière partielle. Nous avons dit, nous gardons des parts dans l'actionnariat parce que nous voulons continuer d'être au conseil d'administration, continuer de participer à la politique de développement de Sonatel. Mais en même temps, nous avons besoin de cet argent-là pour faire un certain nombre de choses. Bon, nous disons, nous vendons 9,87. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que ces 9,87% que nous vendons, les travailleurs n'ont pas dit « ne vendez pas ». Les travailleurs ont dit « ne vendez pas à France Télécom », mais ils n'ont pas dit « ne vendez pas ». C'est pas ça le problème.
Ils ont demandé que vous vendez ça aux Sénégalais, aux nationaux.
Non, ils ont demandé à ce que nous ne vendions pas à France Télécom. Ensuite, c'est là où le président de la République a dit « mais appelez-les à la discussion et qu'on parle, qu'on se parle ». Qu'on voit comment ensemble trouver des solutions intéressantes. Et c'est qu'ensemble que nous avons dit, ce n'est pas les travailleurs, ça n'a jamais été une revendication des travailleurs de Sonatel. Ça d'ailleurs, c'est pas leur mission. C'est lors de ces discussions qu'ensemble nous avons dit, nous allons vers une solution nationale. D'ailleurs, les travailleurs, ça me donne l'occasion de le dire ici, les travailleurs, à l'époque de la privatisation, ils ont commencé à 10%. Et ils ont vendu un certain nombre de leurs actions, aujourd'hui, il leur reste un peu moins de 4%. D'accord. Donc, il leur est très difficile de vendre et de dire à l'État, ne vendez pas. D'accord. De la même façon qu'eux ont des responsabilités, ils doivent faire face à leurs exigences, à leurs responsabilités, l'État aussi doit faire face à ses responsabilités. Donc, les travailleurs n'ont jamais dit, ne vendez pas.
Oui, mais ils ont posé un certain nombre de questions, monsieur.
Ils disent, ne vendez pas à France Télécom. Ça, c'est donc pour nous, c'est un autre problème. Donc, nous sommes dans l'application de cette lettre de politique sectorielle. Nous écoutons aussi le secteur. Et ce pourquoi nous avons été très sensibles, en fait, à cette revendication, ne vendez pas à France Télécom, parce que lors de ces concertations, nous avons pu mesurer, en fait, toute l'importance qu'il y avait pour eux que l'État ne les laisse pas seul, j'utilise plus ou moins leur terme, ne les laisse pas seuls avec le partenaire stratégique.
Oui, mais ils ont dit France Télécom parce que certains d'entre eux disent que pratiquement tout le top management est dirigé par France Télécom. Il y a des ingénieurs, des cadres sénégalais que France Télécom est en train d'enlever de mettre d'autres. Il y a une hostilité vis-à-vis de France Télécom parce que pour eux, les bénéfices de la société, tout ce qu'il y a de bon, c'est transféré en France.
Ce qui est transféré en France est transféré selon l'actionnariat. France Télécom a 42%. Il a investi. Et donc, bon, c'est du business.
Oui, parce qu'ils ont l'impression d'être des vaches à lait de France Télécom.
Maintenant, il y a une réalité. Si vous l'avez dit vous-même, je siège au conseil d'administration. Et j'ai pu écouter lors de ces concertations des choses que je n'avais pas entendues au conseil d'administration. D'accord. Et c'est surtout ça qui a interpellé l'État. L'État n'est pas interpellé par des mouvements sociaux, etc. Ce qui est important pour l'État, c'est de prendre ses responsabilités, toujours en vue de répondre à l'intérêt général. C'est ça qui est important. Mais nous avons été interpellés parce que nous avons su des choses lors de ces concertations qui, de l'extérieur, ne se voit pas toujours.
Quelles sont ces choses?
Regardez une entreprise. Vous l'avez dit, ce sont ces choses-là. Vous dites qu'il y a une sorte de malaise de communication, souvent, entre le partenaire stratégique et le personnel. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et lorsque nous avons été interpellés sur cette question, nous avons commencé donc à faire des consultations pour savoir de quoi il s'agissait. Nous avons vu finalement que ce n'était rien de profond, que c'est simplement une sorte de la perception en réalité de certaines actions, de certaines décisions d'entreprise qui parfois créent en fait des suspicions, des choses comme ça. Et donc nous avons conseillé aux deux parties, aussi bien aux salariés de la Sonatel qu'à France Télécom, de travailler dans le sens de pacifier en fait et aussi de poser tout sur la table. Que ce climat-là de suspicion sur certains dossiers, sur certaines choses, puisse disparaître pour le bien de la Sonatel et pour le bien donc du Sénégal. Parce que Sonatel est donc la première société du Sénégal.
Y a-t-il dans le protocole d'accord une clause qui prévoit des poursuites judiciaires au cas où une des parties rompt le pacte?
Oui, il y a, bon, comme tout accord hein, entre deux parties, il y a des... un article qui concerne donc l'arbitrage, mais encore une fois nous sommes très loin de ça, nous sommes très très loin de ça. Nous, encore une fois, ce protocole d'accord était simplement un cadre qui permettait de discuter. Il disait à la fin si ce protocole en fait est soumis à l'autorisation de l'État, l'autorisation donc des autorités compétentes de l'État. Si cette autorisation-là n'est pas obtenue, le protocole est sans objet. Il y a une partie des Sénégalais qui pense que bon, France Télécom va faire prévaloir un certain nombre d'arguments juridiques, etc., pour forcer. France Télécom n'est pas du tout dans cette optique-là. Ce que nous avons observé, c'est que France Télécom a bien compris que l'État n'avait plus l'intention d'aller dans le sens du protocole d'accord. Ils se sont mis à la disposition de l'État pour dire, bon, ben, écoutez, nous vous écoutons. Vous savez que nous avons un droit de préemption. Nous avons l'intention de l'exercer de manière éventuellement totale ou partielle. Nous sommes à votre écoute.
Oui, mais aujourd'hui, il y a une situation d'attente par rapport à cela. Quand est-ce que vous allez lancer l'offre publique d'achat? Et quand les choses vont commencer pour que le travail reprenne effectivement au niveau de la Sonatel, parce que le travail ne sait pas où ils en sont.
Aujourd'hui, nous n'en sommes pas à l'OPV, nous en sommes au nantissement. D'accord. Actuellement, nous avons un certain nombre de cabinets financiers qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour mettre en place cette solution de nantissement qui, d'ailleurs, est compliquée. Aujourd'hui, les marchés financiers vendent leur argent très cher. Vous connaissez la crise financière à laquelle fait face tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un travail délicat. Ce qui le rend délicat, c'est que les 200 milliards qui avaient été identifiés selon les termes du protocole d'accord avec France Télécom, c'était un fonds qui était bien au-delà en réalité du prix de l'action, du prix actuel de l'action. Or, quand vous nantissez, aujourd'hui, vous nantissez au prix de l'action.
Oui, mais il y a des Sénégalais qui se positionnent, qui disent qu'ils peuvent racheter les actions de la Sonatel Finance.
Là, encore une fois, vous êtes en train de parler de la partie OPV. Nous en sommes d'abord au nantissement, d'accord? Donc, je vous dis les difficultés auxquelles nous sommes confrontés concernant le nantissement. Donc, il y a un gap hein, qui est là, sur lequel nous travaillons. Comment faire pour que le gap qui est entre le prix de l'action et l'agrégat de 200 milliards, comment faire pour que ce gap-là soit retrouvé? C'est-à-dire que l'État, en fait, ne paye pas trop cher sa nouvelle décision. Donc on travaille là-dessus. Dans un second temps maintenant, parce que rien ne vous empêche de vendre vos actions une fois que vous les avez nanties, rien. Donc dans un second temps, nous allons aller sur le marché et nous allons donc vendre ces actions-là. J'ai effectivement entendu ici et là, vous en avez cité, des gens dire « nous sommes prêts à acheter des actions », etc. Mais ça me fait sourire. Aujourd'hui, vous avez 30% de flottants. Vous avez à la bourse des actions Sonatel qui sont là-bas. Que ces gens-là qui s'intéressent à l'action Sonatel, d'abord y aillent. D'accord ? Ce sera une preuve donc que ça les intéresse et qu'il n'y a pas d'autres arguments cachés dans leur position. Et ensuite, c'est seulement dans un second temps que ces 9,87% seront mis à la disposition des Sénégalais selon les termes que l'État partagera avec tout le monde à ce moment-là.
Vous êtes membre du conseil d'administration, pourtant on vous prête l'intention aussi de vouloir acquérir des actions vous aussi.
Je vais même aller plus loin, votre question est très intéressante. On m'a même prêté le fait que j'ai acheté des actions il y a quelques mois, ça a défrayé la chronique d'ailleurs. Je me suis levé un matin, on m'appelle au téléphone et on me dit « Mais tu es à la une des journaux ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah mais tu as acheté les actions de l'IPRES ». Lorsque j'ai appris ça, j'ai dit « Tiens, c'est bizarre, effectivement, c'est une société qui s'appelle Genesis ». Parce qu'effectivement, j'avais, avant de rentrer au cabinet du président, j'avais une société qui s'appelait Genesis. Et bon, vérification faite, tout le monde a vu que c'était une société qui était en Angleterre, qui n'avait rien à voir avec moi, qui avait acheté les actions de l'IPRES selon des règles parfaitement transparentes, etc. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour dire que j'accepte les excuses d'hommes comme Bachili, excuses qu'il ne m'a jamais présentées, d'ailleurs, mais je les accepte quand même, qui, en homme politique, sans vérifier, s'épanche dans les radios, dans les journaux, etc., pour dire c'est scandaleux, ce conseiller du président, etc. Moi, je dis que c'est dangereux pour le Sénégal, qu'il y ait des gens qui font de la politique à ce niveau-là et qui ne savent pas prendre 10 minutes pour vérifier une information. Je dis que c'est extrêmement dangereux et qu'il faut s'arrêter et réfléchir là-dessus. Il y a un travail à faire de ce côté-là. La presse est un quatrième pouvoir qui aide donc l'État à mieux travailler. D'accord ? Parfois, il y a des choses qui peuvent échapper, et la presse est là pour dire, écoutez, il y a ça. Et ça peut donc aider. Mais aussi, ça peut aussi détruire. Ça peut détruire tout ce que l'État fait pour l'intérêt général, et donc ça peut détruire donc certains intérêts de la nation. Donc, je voulais profiter de cette occasion-là pour le dire, et pour répondre de manière plus directe à votre question. Je ne suis pas, moi, détenteur d'actions de Sonatel. Je suis simplement membre du conseil d'administration et je représente la présidence de la République à ce conseil d'administration. Mais rien ne m'empêche, en tant que Sénégalais, hein, le jour où l'OPV sera faite, d'acheter des actions. À ce moment-là, si j'ai un peu d'argent, je le ferai sans doute, parce que je crois en l'action Sonatel.
Oui, et tantôt vous parlez des difficultés de nantissement des actions au niveau des banques. Pourquoi il y a ces difficultés-là? Est-ce que l'État a des difficultés par rapport à sa signature pour lever des fonds sur le marché financier?
Ah non, c'est pas du tout un problème de signature, c'est un problème de montant. D'accord. L'État prend le temps. Aujourd'hui, n'importe quelle banque serait très heureuse de prendre en garantie des actions de Sonatel. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. C'est même pas le problème, un problème de signature. Là, c'est la garantie. La garantie, c'est l'action. Donc, non, le problème, c'est comment vous faites pour lever le maximum de fonds. D'accord. Aujourd'hui, l'action n'est... Écoutez, vous vendez à 9,87%. Vous voulez 200 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action doit être vendue à 200 000. D'accord? Alors que vous allez à la bourse, elle est autour de 115, 120 l'action. Donc vous pouvez lever que 120 milliards. Donc 80 milliards, comment vous les trouvez? C'est ça le problème aujourd'hui. Nous sommes en train donc de faire ces réglages-là pour mettre en place ce gap.
Vous êtes le conseiller du chef de l'État en TIC et membre du conseil d'administration représentant la présidence de la République. Même si la transaction... devrait relever du ministère des Finances, l'on présume que le président vous a consulté avant de vouloir céder ces 9,87% des actions. Quelle a été votre position?
Comme je le disais à mon entame, je disais que le président de la République, lorsqu'il m'a nommé à ce poste, il m'a dit « Je veux que tu fasses prévaloir la concertation et le consensus. » D'accord? Donc, dès que nous avons parlé de ce dossier, il était évident pour moi d'appliquer cela. C'était sa profession de foi dans le secteur. Et d'ailleurs, c'est la meilleure profession de foi possible. Pourquoi? Parce que le secteur des télécommunications, le secteur des NTIC en général au Sénégal, est un secteur tellement intéressant. Vous avez une expertise extraordinaire dans ce secteur. D'accord? Allez à la Sonatel. Regardez le nombre de polytechniciens que vous avez là-bas, d'ingénieurs des grandes écoles, de l'École nationale des télécommunications, etc. Toutes ces expertises-là, mais à mon avis, doivent s'exprimer. C'est leur secteur. Ils sont les premiers concernés. Il serait dommage que, parce que vous avez simplement le pouvoir de faire des choses, il serait dommage de ne pas leur demander parfois de contribuer. C'est ce que nous avons fait pendant la concertation sur la libéralisation, et c'est ce que nous faisons aussi dans ce cas-ci. Donc il n'y a aucune contradiction avec la profession de foi du président concernant ce secteur-là. Et moi, cela m'est tellement plus facile de m'ouvrir à toutes ces expertises-là qui ont fait de la Sonatel et donc du secteur des télécoms ce qu'ils sont aujourd'hui.
Oui. Vous parlez tantôt de la recherche de 80 milliards qu'il faut combler par rapport au nantissement. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ces 80 milliards? Parce qu'il semble qu'il y a urgence.
Oui, comme vous le savez, peut-être, le protocole d'accord initial avec France Télécom était un protocole d'accord qui permettait donc d'acheter l'action à un prix plus élevé que le cours au cours de la bourse, et ensuite de combler ce gap-là par une distribution de dividendes exceptionnels. Lorsque France Télécom a appris que le protocole d'accord avait été stoppé, a décidé donc, et ils en avaient le droit, que cette distribution exceptionnelle de dividendes devait être annulée. C'est pour ça donc que le conseil d'administration, dont c'était l'objet le plus intéressant du 6, a été annulé. Donc c'était une solution très imaginative de trouver le gap. Et pour eux, sans doute, c'était une sorte de contribution à la prime de majorité, de prise de majorité. Mais c'est simplement une solution, il y en a d'autres.
Donc cette année, les actionnaires ne vont pas toucher les dividendes.
Les dividendes exceptionnels, ce sont les actionnaires donc qui le proposent. Ça va en conseil d'administration et ensuite c'est voté, etc. Si l'actionnaire majoritaire, relativement majoritaire, pense qu'il ne faut pas le faire, ça ne peut pas se faire.
Est-ce que ça ne risque pas de créer d'autres problèmes ? Par rapport aux petits actionnaires qui étaient là, qui pensaient qu'ils vont avoir aussi une dividende exceptionnelle.
Ben, je pense qu'ils n'étaient pas à l'origine. Hein. Donc quand on vous dit il se peut qu'il se passe ça et que ça ne se passe pas, en général vous ne prenez pas des engagements qui vous mettent dans des situations difficiles.
Pour sortir un peu de l'univers de la Sonatel. Mais on reste toujours dans le secteur des télécommunications. Où est-ce que l'État en est avec l'autre opérateur Tigo?
Tigo, effectivement, nous avons une situation qui est pendante avec Tigo, qui est en train de, d'après les dernières informations que j'ai, qui est en train d'évoluer dans un bon sens. Pour un rappel, Tigo avait acheté sa licence $100,000 à l'époque. En 98, je crois, à l'époque du gouvernement socialiste, et nous pensons que c'est un grand problème, d'accord. Quand vous achetez une licence $100,000, que vous êtes deuxième opérateur et que l'alternance vend une troisième licence à $200 millions, il y a un grand problème. Donc, nous aurions pu faire les choses autrement. Nous aurions pu l'exemple ivoirien, hein, la Côte d'Ivoire a dit bon, tous ceux qui n'ont pas payé de licence, vous payez tant et vous le payez tout de suite, et je crois à l'époque c'était quelque chose comme 25 milliards. Nous avons préféré donner le micro au marché. Nous avons dit, nous n'allons pas fixer de barre, parce que cette barre là peut être soit trop faible dans le cas ivoirien, soit trop élevée, et à ce moment là l'opérateur serait lésé. Nous allons faire les choses proprement. Nous allons dire, nous allons vous mettre en hold parce que nous ne savons pas combien vous devez payer. Nous allons voir ce que le marché dit, et à ce moment-là, nous revenons à vous pour que vous payiez. Donc nous avons lancé une troisième licence, elle a été vendue à $200 millions. C'est là où nous avons appelé Tigo. Nous avons dit, bon ben voilà, ces gens-là ont payé $200 millions et ils ont zéro client. Vous en avez un peu plus d'un million, combien vous payez ? Pour continuer à travailler au Sénégal de manière dans un cadre juridique serein. Donc c'est dans ces discussions-là que nous sommes actuellement. D'après les dernières informations que j'ai, Thigault a bien compris cette problématique et est en train de prendre des dispositions pour se mettre à niveau.
C'est-à-dire qu'ils vont payer.
Ils ne peuvent pas ne pas payer. D'accord. Maintenant, il faut que ça se fasse selon des conditions transparentes, parce que c'est l'image du secteur. Et deuxièmement, selon des conditions justes. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir que Thigault a investi. Ils ont investi pendant plusieurs années, ils ont mis en place un réseau, ils ont recruté un certain nombre de Sénégalais. Donc tout ça doit être mis dans la balance. Il y a aussi un certain nombre de manquements que l'État a identifiés. Donc tout ça doit être mis en perspective pour voir combien Thigault doit payer pour continuer à opérer au Sénégal.
Dans ce dossier, l'État a beaucoup tâtonné. Dans un premier temps, il y a eu un ultimatum qui a été fixé. Ça n'a pas été respecté. Un autre ultimatum. Pourquoi tout? Pourquoi ce va-et-vient?
Ce n'est... Bon, vous le percevez comme ça. Mais en réalité, tout ça procède d'une stratégie bien, bien écrite par l'État. L'État sait très très bien ce qu'il fait pour, à terme, avoir ce qui lui est dû. D'ailleurs, vous me faites penser à ce qui s'est passé pendant la mise en place de cette troisième licence. Entre le moment où le président de la République a décidé de mettre une licence sur le marché et le moment où ça a été fait, il y a eu plusieurs années. D'accord ? Mais vous en avez vu le résultat. 200 millions de dollars, c'est l'une des licences les plus chères dans l'histoire du monde, ramenée à l'habitant. Donc pourquoi ? Et pendant ce temps-là, les gens se sont dit, oui, mais le président dit ça, mais est-ce que ça va se faire ? Oui, le conseiller est venu, il a dit qu'il y aura un troisième opérateur, est-ce que ça va se faire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas du tâtonnement ? Non, pas du tout, il n'y avait pas de tâtonnement, il y avait simplement un calendrier, il y avait une stratégie, et dans une stratégie, vous avez une tactique. Le temps se déroule. De l'extérieur, si vous ne connaissez pas la stratégie et la tactique, vous avez l'impression que c'est du tâtonnement. Mais au finish, quand vous aurez vu les résultats, vous comprendrez tout ce qui s'est passé.
Oui. Concernant la troisième licence, on a parlé d'Espresso qui est venu, qui s'est installé au Sénégal. Les gens parlent de milliards qu'ils auraient payés par rapport à cette licence. Est-ce que tout l'argent a été encaissé par l'État du Sénégal?
C'est passé à la télévision. D'accord. Les chèques qu'ils ont donnés, c'est passé à la télévision. Je crois que c'était à l'hôtel Teranga. Ils sont venus justement parce que, vous savez, nous sommes peut-être l'un des rares États au monde où un opérateur donne un chèque à un ministre des Finances et on appelle la télévision. C'est extraordinaire. Moi, ce jour-là, ça me faisait sourire. Et nos services de communication ont dit, vous êtes obligés parce que les gens vont poser des questions et vous m'en posez encore une aujourd'hui, alors que c'est passé à la télévision. Oui. Nous avons appelé l'opérateur et nous lui avons dit, voilà ce que nous voulons. Nous voulons que les Sénégalais voient clairement que ce que vous avez dit que vous alliez payer, vous allez le payer.
Oui, mais le troisième opérateur devait faire, c'est une opération globale, il devait faire de téléphone fixe, internet et aussi téléphone portable. Jusqu'à présent, on voit que le téléphone portable, il n'y a que le mobile qui marche.
Alors, si vous regardez les termes du cahier des charges, nous, ce que nous avons placé sur le marché, c'était une licence mobile avec option sur le fixe et sur l'Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas donc une obligation de l'opérateur, mais c'est une option que l'opérateur peut exercer quand il veut. D'accord. Et comme vous le savez, quand vous regardez les chiffres du fixe, vous voyez que le fixe à la Sonatel baisse de manière très significative. L'Internet, les données, etc., ça stagne plus ou moins. Et ce qui est intéressant, la mine d'or, c'est l'opérateur, c'est les opérations mobiles. Et donc, effectivement, un opérateur, ce qu'il va faire, il va investir le maximum dans les opérations mobiles dans un premier temps et il exercera ses options quand il les exercera. Donc, c'est ça qui est derrière. Mais je vais vous dire une chose. Un opérateur qui vous paye 200 millions de dollars, d'accord, assurez-vous qu'il s'assurera qu'il va les retrouver. D'accord. Et donc, il fera de manière intelligente ses investissements dans le secteur pour qu'il ait des retours, les retours qu'il est en droit d'attendre.
Oui. Est-ce que ce secteur, vous l'avez dit, c'est une mine d'or de téléphone mobile au Sénégal? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une quatrième licence pour un peu, qu'il y ait beaucoup plus de concurrence sur le secteur?
Oui, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un troisième opérateur. Nous avons mis un troisième opérateur parce que nous voulons qu'il y ait plus de concurrence. Nous voulons aussi que Tigo ait une existence juridique claire, que sa licence soit clarifiée aussi. Est-ce qu'ils veulent faire de l'international proprement ? D'accord, mais à quel coût ? Selon quelles conditions, etc. Donc, nous voulons complètement mettre de l'ordre dans le secteur, qui soit complètement transparent pour que la concurrence soit saine, loyale, au bénéfice donc du consommateur sénégalais. Nous avons pour l'instant donc nous sommes dans une situation où nous continuons de discuter avec Tigo. Si l'État du Sénégal ne s'entendait pas avec Tigo, Tigo à ce moment-là arrêterait ses opérations et la licence serait remise sur le marché. D'accord, toujours en vue d'une concurrence saine. Dans le cas où Tigo et l'État s'entendaient, à ce moment-là, les choses seraient clarifiées et la concurrence aussi se ferait de manière saine et loyale.
Un quatrième opérateur, est-ce que c'est possible ?
Absolument. Nous avons l'intention de le faire. Bien entendu, quand vous vendez une troisième licence, vous négociez ce qu'on appelle la structure de marché avec le nouvel opérateur.
Est-ce qu'il y a le marché ?
Oui, le marché est là, absolument. J'avais entendu à l'époque des gens dire l'État du Sénégal ne pourra jamais vendre sa troisième licence parce que deux opérateurs, c'est suffisant. Et des gens très au parfum de ce qui se passe dans le secteur avaient fait cette erreur-là. Et pourtant, le troisième opérateur est là. Non, ce que je veux dire, c'est que le quatrième opérateur, il y aura un quatrième opérateur, ce qui a été signé avec le troisième, c'est que la structure de marché à trois resterait pendant 5 ans. D'accord. Ça, c'est une règle connue dans ce genre de négociations. Quand vous vendez une licence, l'opérateur veut savoir quelle est la structure de marché dans les années qui viennent pour savoir comment il va investir et donc combien il va payer la licence.
Oui, il paraît qu'il y a des Sénégalais qui sont porteurs de projets comme ça pour avoir une société de télécommunications comme Sonatel, Espresso et Tigo, entre autres, ici au Sénégal. Est-ce qu'il est possible que l'État du Sénégal facilite à ces Sénégalais nationaux d'avoir une entreprise comme ça dans ce pays ?
Vous savez, c'est ce que l'État du Sénégal veut. Lorsque Sudatel est arrivé ici, l'État du Sénégal leur a dit « D'accord, on va vous donner cette licence, mais vous prenez 15% et vous donnez ça aux Sénégalais. » On le leur a imposé. D'accord ? D'ailleurs, jusqu'à présent, aucun Sénégalais ne s'est manifesté.
Ah oui ?
Aucun.
Personne n'a acheté les 15% ?
Aucun. Aucun. Ils sont là. Ça me donne l'occasion de dire la même chose pour d'autres projets. Mittal Steel est venu ici, ils ont dit on donne 20% à des Sénégalais. Aucun s'est manifesté. Dubai Port a dit nous donnons 20 ou 25% à des Sénégalais. Aucun ne s'est manifesté. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis. Il faut commencer quelque part. Moi, les grandes réussites industrielles que j'ai vues, les gens, ils ont commencé quelque part. D'accord. Vous ne pouvez pas dire, je vais être un gros opérateur, je vais faire la concurrence à Sonatel, alors que vous n'avez même pas 1% dans une société de télécommunication. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrête ça. Soyons sérieux. Donc, l'État fait ce qu'il a à faire. Il dit, moi, je veux que dans ce secteur-là, qui est un secteur qui est une mine d'or, je veux que les Sénégalais rentrent dedans et qu'ils réussissent. Mais à la fin de la journée, rien ne se passe. Et vous savez, ça nous a pris des heures et des heures et des heures de négociations pour arriver à ces 15%. Et pourtant, ils sont encore là.
Oui. Aujourd'hui, les travaux de la Sonatel, comme vous l'avez dit, c'est ça qui avait fait que nous avons commencé cette interview. Quels sont les messages que vous envoyez à ces gens-là pour les rassurer par rapport à leur emploi, par rapport à ces 9% d'actions que l'État va nantir ?
Bien, je crois qu'ils sont très rassurés. Ils ont eux-mêmes fait un certain nombre de déclarations dans la presse. Ils savent très bien que l'État a bien entendu les termes qui nourrissent leurs préoccupations. Cette solution de nantissement est en cours de mise en œuvre. L'OPV, le moment venu, l'État du Sénégal partagera avec les Sénégalais les termes de cet OPV. Donc, tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
Mais vous n'avez pas de date pour le nantissement, c'est quand ?
Quand vous négociez avec des banques, vous ne pouvez pas leur imposer une date. Actuellement, nous sommes en train de négocier avec des banques, nous sommes en train de réunir les fonds. d'accord, dans un marché financier difficile. Donc, tout le monde le sait, hein, nous voulons avant le 30 juin avoir terminé l'opération. Donc, pour nous, c'est ça la deadline finale. Mais bien sûr, il s'agit de sécuriser ces fonds-là le plus tôt possible.
Quelles sont ces banques ? C'est légalaise ou extérieure ?
Nous travaillons avec des conseillers financiers. D'accord, des cabinets financiers qui, eux, vont aller chercher cet argent. Cet argent-là, comme vous le savez, hein, l'argent n'a pas d'origine, il n'a pas de destination. Qu'il vienne d'ici ou là, ce n'est pas important.
Mais dans un premier temps, vous le cherchez ici au Sénégal ou bien à l'extérieur ?
Encore une fois, je répète, ce qui est important pour nous, ce sont les conditions dans lesquelles cet argent-là est obtenu, pas d'où il vient. Entendons-nous, hein, il faut qu'il soit, bien sûr, qu'il vienne selon les règles connues, mais ce sont les termes selon lesquels cet argent-là est obtenu qui pour l'État du Sénégal, est intéressant.
Oui. Au-delà du fait qu'au Sénégal, ici, on s'occupe du téléphone mobile, il y a quand même Internet qui ne semble pas être démocratique ici au Sénégal, parce que c'est des outils formidables d'éducation, entre autres. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce secteur-là pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à cet outil ?
Oui, Internet, le problème d'Internet, c'est que ce n'est pas comme pour la téléphonie où le ticket d'entrée pour jouer coûte... aujourd'hui, pour jouer dans la cour de la téléphonie mobile, vous avez besoin de 30 000 francs à peu près. Avec 30 000 francs, vous avez une puce et vous avez un téléphone correct. Et donc, vous commencez à jouer dans cette cour. Dans la cour Internet, vous avez besoin d'un minimum de 400 000 francs pour acheter un ordinateur. Il vous faut un ordinateur. Bon, je parle d'un Internet confortable, hein, pas un Internet que vous faites sur votre téléphone, etc. Donc, le ticket d'entrée est plus élevé pour faire de l'Internet. Et c'est pour cela que le président du Sénégal, ayant réfléchi sur la question, a dit, écoutez, l'existence d'Internet a créé une nouvelle bibliothèque. D'accord ? Cette nouvelle bibliothèque du savoir qui est Internet. Bien. Or, pour la première fois dans l'histoire du monde, voilà une bibliothèque où il faut payer un ticket d'entrée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous voulez savoir que vous saurez, mais c'est parce que vous payez que vous saurez. Et donc, c'est grave. Et c'est ça toute la philosophie donc, de la solidarité numérique. Il dit, puisque nous devons payer pour savoir, et puisque le savoir est supposé être démocratique à la base, il faut que donc nous nous entendions pour lever l'obstacle du ticket d'entrée. Et donc, il faut que ceux qui ont aident ceux qui n'ont pas pour que tout le monde sache. C'est ça, le principe de la solidarité numérique. Donc, on met en place un fonds où tout le monde intervient et on aide donc les zones ainsi que les nations qui ont des difficultés à accéder à ces ordinateurs-là, à y accéder. C'est ça, le principe. Beaucoup de gens l'ont compris, beaucoup d'États l'ont compris, les Nations Unies ont accepté cette... et c'est une chose qui est en cours. De manière plus détaillée pour le Sénégal, ce que nous essayons de faire, c'est de faire que d'abord, au niveau de l'État, les gens utilisent l'outil informatique beaucoup plus qu'avant. Est-ce que vous saviez que lorsque le président Wade est arrivé au pouvoir en 2000, l'État disposait d'à peu près 1000 ordinateurs? Aujourd'hui, il y en a à peu près 7000. Nous avons multiplié ce chiffre-là par 7. En moins de 5-6 ans. Les agents de l'État sont beaucoup plus familiers avec l'ordinateur qu'avant. Nous avons aussi mis en place des projets pour aider les étudiants à accéder à l'ordinateur et donc à Internet, etc. Ce que nous allons demander, et d'ailleurs maintenant c'est à point d'en parler, c'est de capitaliser sur la citoyenneté des opérateurs. Comme Sonatel, qui a mis en place une fondation et qui fait beaucoup de choses très intéressantes dans ce domaine-là, pour qu'il y ait une approche plus percutante dans ce domaine-là. Que les opérateurs, ensemble, aident les populations à mieux accéder à l'outil informatique en vue d'utiliser donc le réseau Internet. Et c'est un win-win. Quand vous aidez les gens à avoir l'outil, les gens vont venir prendre votre poisson que vous vendiez. Donc, ce sera un win-win aussi bien pour les opérateurs que pour le citoyen sénégalais.
Il y a aussi Alex Segourad a dit, ce représentant résident d'FMI au Sénégal, que la facture téléphonique du Sénégal, c'est 37 milliards de francs CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que conseiller en titre du président, il y a une solution qu'il faut trouver par rapport à cette facture par les outils comme Internet?
Alors, nous venons de mettre en place un réseau interne à l'État. Nous ne l'avons pas encore inauguré. À l'heure où je parle, les techniciens sont en train de terminer les tests. Mais nous allons, dans les semaines ou mois qui viennent, hein, maximum peut-être 2 mois, nous allons avoir un réseau privé de l'État. Aujourd'hui, les techniciens, même de Sonatel, savent que le réseau existe déjà et que nous sommes en train de faire les tests. Nous allons distribuer plus de 6000 téléphones portables aux agents de l'État qui permettront d'avoir des communications mobiles gratuites à l'intérieur de l'État. D'accord ? Ça va contribuer très fortement à baisser la facture. Et ensuite, quand vous faites un appel extérieur à l'État, c'est là où l'appel va sur le switch donc d'un des opérateurs. C'est pour cela, hein, qu'il y a 2 ans, nous avons décidé de faire cet investissement-là, et je crois, je n'ai pas vu d'autres États avoir un tel réseau dans le monde. Hein, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu un État avoir un réseau mobile, données et fixes, qui permet aussi de faire de la vidéoconférence complètement privée qui appartient à l'État.
Il y a aussi l'inquiétude des citoyens par rapport à l'information qu'a donnée la presse, que ici les services de sécurité de la police auraient eu des matériels d'écoute téléphonique au Sénégal.
Ah ça, il faut interroger ceux qu'il faut interroger. Hein. Moi je m'occupe de télécommunications, pas de sécurité. Mais vous pouvez interroger ceux qui...
Mais vous êtes quand même dans l'éthique, vous le conseillez le président. Quand on découvre des citoyens, ça pourrait être inquiétant.
Pourquoi vous dites que c'est inquiétant? Moi, je ne sais pas comment la sécurité fonctionne, hein, mais dans tous les pays développés, hein, même vous le voyez dans les séries télévisées, etc., pour la sécurité de tout le monde, l'État prend un certain nombre d'actions, fait un certain nombre de choses. Pour le Sénégal, je ne sais pas comment les services de sécurité fonctionnent dans les télécommunications. Il va falloir les interroger. Vous avez toutes ces institutions-là qui savent, qui sauront vous répondre.
Oui, il peut y avoir un quatrième opérateur. On est à 3, mais pourtant le téléphone coûte encore plus cher au Sénégal que dans la sous-région.
Pourquoi ? Ah non, le téléphone coûte beaucoup moins cher. Le téléphone ne coûte pas du tout cher, hein, par rapport à la sous-région. Par contre, il coûte plus cher qu'aux États-Unis. Ça, vous avez raison. Il faut commencer quelque part. Nous sommes les meilleurs de la classe. Maintenant, nous allons changer d'école. On va aller dans une école plus performante et on va essayer aussi d'être les meilleurs.
Donc, c'est le dit plus cher, c'est par rapport au niveau de pauvreté des Sénégalais.
Non. Parce que nous ne sommes pas plus pauvres que d'autres dans la sous-région et ils payent plus.
Tiens donc, Ousmane Sy, le groupe des médias, vous remercie l'Observateur et la RFM avec Ndiaga Ndiaye et Alassane Sambodjo. Merci.
Merci.